Voir, goûter, entendre, sentir, toucher, regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bonjour Alex, moi j'avais envie de te rencontrer, j'allais dire sur l'antenne, parce que tu es un grand bourlingueur. T'es souvent parti, hein. On se demande toujours où t'es rendu. Est-ce qu'il y a des coins du monde en particulier ou du moins qui t'attirent? Quels sont ceux qui t'attirent le plus? Quel est le continent ou quels sont les continents qui t'attirent?
Ok, ben on va commencer. Bonjour à tous. On va commencer peut-être par le début. Pourquoi déjà avoir envie de partir avant de parler des continents qui m'attirent? Parce qu'à la base, au tout début, il n'y avait pas de continent particulier qui m'attirait. Il y avait juste une envie de remettre en question mes schémas, mes croyances, mon mode de pensée et mon mode de vie. J'ai eu une éducation relativement stricte, fils unique, une cellule familiale assez unie, assez fondée, et finalement je me suis rendu compte que je savais pas trop ce qui se passait en dehors de ma famille. Et je crois qu'à un moment donné j'ai eu envie de voir ailleurs, tout simplement, quoi, de me libérer de ce carcan familial pour pouvoir m'ouvrir sur l'autre, m'ouvrir sur le monde. Et donc là, lorsque j'ai eu cette réflexion, j'ai cherché un moyen de pouvoir partir. Je savais pas trop où. J'ai regardé quels étaient les différents moyens de voyager. Je me voyais pas partir seul pour le premier voyage. Et je suis tombé sur un organisme qui s'appelait à l'époque Solidarité Jeunesse, qui propose de faire du bénévolat. Donc à ne pas confondre avec le volontariat, on pourra peut-être y revenir plus tard.
Oui, pour faire la différence entre les deux.
Oui. Ouais, hein, c'est pas la même chose. Un bénévole, partir avec un statut de bénévole et de volontaire, c'est pas du tout la même chose. J'ai regardé ce qui se faisait comme chantier de bénévole en Afrique. J'ai d'abord voulu partir en Afrique. À l'époque, c'était à cause du message reggae, une musique que j'aimais beaucoup, qui me parlait pour le message spirituel, proche de la nature, proche des gens. Bref, donc le reggae me plaisait. L'Afrique était en résonance avec le message reggae. Et donc j'ai regardé quel type de projet existait sur le continent africain. Et je suis parti une première fois comme ça avec un organisme qui s'appelait Les Amis de la Terre. Donc c'est une ONG qui est présente dans plusieurs pays. Et là, elle était présente au Togo. Et elle proposait à des jeunes que j'étais d'aller faire des chantiers de bénévoles où pendant 3 semaines, il fallait faire des batiks, planter des arbres et puis aider les enfants dans une école. Donc ça m'a permis d'avoir une structure, d'avoir un cadre et de ne pas être lâché comme ça n'importe comment sur un continent que je ne connaissais pas. Et je suis parti donc à 19 ans pour la première fois en Afrique.
Alors attends, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu es parti quand tu voulais rompre avec le carcan, le machin, etc.? Est-ce que c'était pour te trouver toi-même? Parce que c'est, finalement, tu as laissé tomber tout ce que tu connaissais. Tu es parti à la rencontre d'autres cultures, d'autres pays, d'autres cultures. Mais c'est un peu toi que tu as cherché à travers tout ça.
Mais je continue à me chercher, moi. Je crois que toute ma vie, finalement, je serai un chercheur de ce que je suis réellement à l'intérieur de moi. Alex, Alexandre, hein, c'est mon nom, c'est une notion d'ego, c'est une notion de paraître, hein, mais qu'est-ce que c'est que l'être, hein, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur du soi? Donc je crois qu'effectivement, ce premier voyage, c'était pour me découvrir moi, pour découvrir mes limites, découvrir qui j'étais, de quoi j'étais capable, et de flirter avec le potentiel de vie qui sommeille en moi. Et j'ai pas fini de le découvrir. Dans chacun de mes voyages, je me découvre, je me rencontre à travers l'autre.
J'avais donc bien compris. Mais alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu as cherché un petit peu quels étaient les différents modes de locomotion pour aller faire tout ça, parce que c'est pas la porte à côté, il faut y aller, il y a différentes possibilités, et puis il y a aussi le moyen de financer tout ça, parce que quand tu t'en vas pas pour 8 jours, toi.
Chaque voyage a son histoire. Alors c'est difficile de généraliser et de te faire comme ça, de survoler les différents voyages, c'est assez compliqué. Le premier voyage, pour revenir à l'Afrique, effectivement il y avait un coût, mais un coût faible, c'était sur un mois, il y avait un coût d'un billet d'avion, hein, à payer. Donc quand on a 19 ans, c'est l'âge où on économise, on a de l'argent de poche, on sait pas trop ce qu'on va faire, donc on met de côté, on vit chez ses parents, donc tout est facile encore à cet âge-là. C'est pas bien compliqué, c'est plus tard peut-être, quand on part 6 mois ou un an, où là il faut raisonner autrement. Mais sur ce premier voyage, c'était facile, il fallait mettre 800 euros de côté pour un billet d'avion, plus 200 euros sur place, avec 1000 euros j'étais parti un mois, et c'est ça qui a été révélateur, un déclencheur, hein, dans mon goût du voyage, et c'est ça qui m'a conditionné par la suite, et m'a emmené après à découvrir beaucoup d'autres pays.
Donc, première expérience, l'Afrique. Et puis ensuite ?
Ensuite, retour en France et reprise des études. Là, à l'époque, c'était un BTS de gestion et protection de l'environnement. Et je me suis passionné pour la nature. Enfin, j'étais déjà, je le suis, hein, la nature, elle nous nourrit, elle nous choie au quotidien. Et quelque part, j'ai voulu lui rendre hommage à travers ma profession, qui, à l'époque, je pensais pouvoir être animateur nature. Et donc, pendant ce BTS-là, j'étais... sur Annecy, passionné par ce que je faisais, mais avec quand même cette idée de voyage en tête. Et effectivement, là, la question s'était posée, comment faire pour financer ce voyage ? Mmh. Et donc, j'ai monté un projet qui s'appelle le Défi Jeune. C'est pour les jeunes de 18 à 28 ou 18 à 30, je ne sais plus trop. Et j'avais réussi à décrocher une bourse de 6000 euros. Et le projet était partir faire une conférence sur la culture aborigène en Australie et l'endémisme des espèces animales et végétales. Montrer en quoi l'Australie est un continent unique avec une végétation bien spécifique due à son isolement géographique. Et donc voilà, j'avais reçu 6000 euros. Ça m'a permis de partir 6 mois.
Pour aller faire une conférence là-bas ?
Non, pour monter une conférence. L'idée c'était de monter une conférence et là, donc fallait que j'aille sur le terrain pour pouvoir monter ma conférence.
Okay.
Et revenir en France et présenter cette conférence dans différents endroits sur la culture aborigène et l'endémisme des espèces.
Alors donc tu es parti, tu as rapporté tout un matériel de documentation, de renseignements bien sûr, de photos.
Mm-hmm.
Hein, et je pense que ça a été une première exposition qui a suivi, non ?
Oui, donc à l'époque, effectivement, le projet était axé autour de la photo. Mm-hmm. Hein, il fallait faire des photos et il fallait aller dans des endroits pour rencontrer des aborigènes. Et donc j'avais acheté un camion en arrivant là-bas pour faire, ouais, je crois que j'avais fait 40 000 km.
C'est tout ?
Bah, l'Australie, c'est vaste, hein, c'est grand.
Oui, je sais, c'est très grand. Mais qu'est-ce que tu as fait du camion après, avant de revenir ?
Ouais, le camion, en fait, il a littéralement explosé dans le désert, hein, où j'avais acheté un vieux camion. Forcément, avec 6000 euros, on a un budget restreint. Donc, j'avais acheté un camion qui avait déjà 25 ans et qui a littéralement, entre Alice Springs et Cooper Petit, donc c'est l'axe principal qui traverse le désert australien, il faisait trop chaud, le moteur a explosé. Donc, le camion restait au bord de la route.
Ah, il n'a pas supporté, tu l'en as trop demandé, ça je sens bien. Et donc, et après, tu es resté alors en rade là au beau milieu de la nature.
Oui, après, j'ai continué en stop.
Carrément, avec tout ton matériel.
Avec non, là je me suis retrouvé un petit peu, c'était une belle émotion. Parce que dans un camion, on a tendance à accumuler des choses. Hein, on accumule, l'homme accumule, l'homme a besoin de matériel pour se sentir en sécurité.
Même quand on est chez soi, on accumule. S'il faut déménager, c'est une catastrophe.
Partout, on accumule, on a besoin d'exister à travers ce qu'on possède. Et donc j'avais dans mon camion pas mal de choses. Et là, ça m'a permis de me remettre en question, de faire le schéma inverse, de me retrouver un peu comme un vagabond où je devais prendre le minimum avec moi. Parce qu'en stop, je pouvais ni emmener mon didgeridoo que j'avais dans mon camion, ni mes instruments de cuisine, de musique, mon matelas. Enfin, j'ai dû me contenter du minimum et donc remplir mon sac avec la capacité de 60 litres qu'il avait et être autonome pour le reste du voyage.
Eh bien, ça supposait voilà, toute autre méthode pour continuer à vivre.
Mais ce qu'on aperçoit dans ce genre de situation, c'est que finalement, on s'encombre de beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, le minimum suffit.
Ah bah, quand même, un matelas pour dormir, c'est quand même bien utile.
On a un sac de couchage et on peut toujours trouver une alternative. Bon, quand on est jeune, l'inconfort pose pas un problème. On se nourrit autrement, on s'enrichit autrement.
C'est la méthode du globe-trotter.
Oui, c'est du backpacker, c'est du globetrotter, voilà. Avec un minimum sur soi, ouais, pour être le plus libre et autonome et, comme on dit, mobile, possible.
D'accord, donc ça c'était la deuxième expérience.
Mm-hmm.
Et ensuite ?
Et ensuite, j'ai fini par, sur la fin de mon voyage, à rencontrer une japonaise qui m'a emmené au Japon. Et je suis allé vivre un an au Japon.
Avec la japonaise ?
Tout à fait, oui.
Voilà. Et là aussi, tu as rapporté des images de la doc, qu'est-ce que tu as fait là-bas ?
Ben, au Japon, je ne savais pas du tout combien de temps j'allais y partir. Il y avait encore cette question que tu m'as posée avant, hein, financièrement, comment j'allais faire. Ouais. Et ben, j'en savais rien. Donc, je suis parti là-bas avec un visa qui me permettait d'y rester un an. Et je m'étais arrangé pour avoir un visa vacances-travail. Donc, avec ce visa-là, on peut travailler.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai trouvé... d'abord, je faisais du jonglage avec des bâtons enflammés dans la rue pour gagner un peu d'argent. Et de fil en aiguille, les rencontres ont fait que j'ai pu devenir mascotte d'un restaurant. Donc, la mascotte, il s'agissait juste de servir à manger, servir les plats. Le restaurant voulait donner une image... un peu différente, et comme dans la ville où j'étais, il y avait très peu d'étrangers, j'étais la mascotte. C'était pour eux un moyen d'attirer
du monde.
Voilà, tout à fait. Et je me suis retrouvé aussi à travailler dans d'abord une école de langue, puis deux, puis trois, donc à enseigner le FLE, le français langue étrangère. Et j'y suis resté un an.
Tu y es resté un an. Ok, bon, et alors après cette année-là, qu'est-ce qu'il y a eu?
Après cette année-là, je suis parti au Maroc.
Un changement de direction, là, carrément.
En fait, je suis rentré en France avec mon amie japonaise de l'époque, et qui est venue passer quelques temps en France, et on nous appelait un peu les pigeons voyageurs, parce qu'on n'a pas arrêté de voyager ensemble. Il y a eu le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, le Maroc, retour en France.
Qui nous ont valu entre-temps de superbes photos aussi, hein.
C'est plus tard.
C'est plus tard.
La
photo est venue plus tard, mais on a vu des paysages de tous ces coins-là.
On a vu des paysages de tous ces coins-là parce que j'ai retourné par la suite, mais bien plus longtemps.
Ah d'accord, d'accord. Mais et là, alors tu as continué alors l'Australie, le Japon, le Maroc, et puis.
Donc après le Maroc, il y a donc eu l'Asie du Sud-Est, hein, Cambodge, Thaïlande, Laos, avant de retourner au Japon.
Ah, mais de temps en temps, il t'arrive de te fixer en France, oui? Pour combien de temps à chaque fois?
Bah, les retours en France sont souvent brefs. Alors tu me demandais aussi comment je finance. C'est vrai qu'il y a eu une longue époque où quand je revenais en France, je faisais de l'intérim. C'était pour moi un moyen de gagner rapidement de l'argent. Et facilement, et pouvoir partir de nouveau derrière. Savoir que partir, pour moi, ne coûte pas cher. Parce que sur place, c'est souvent des pays en développement dans lesquels je me rends. Je ne vais pas aux États-Unis, je ne vais pas en Angleterre. Je suis dans des pays où le pouvoir d'achat est très faible.
Ton mode de sélection, ce n'est pas de dire « je vais dans des pays où ça coûte pas cher parce que ça coûte pas cher ». C'est parce qu'il y a, tu vois, il y a un besoin d'une recherche, un besoin de découverte. Il y a quoi?
Non, un besoin de... On est dans un système capitaliste, hein, axé sur le développement, la croissance, un système économique qu'on connaît ici en Europe. Et ce système-là, j'y suis né, j'y ai vécu, j'ai eu envie de vivre autre chose. Donc les systèmes de pays riches ne m'intéressaient pas. J'avais envie de me mettre au niveau de pays qui n'ont pas cet accès de développement, cet accès à la consommation que nous on a. Et c'est dans la simplicité, une forme de simplicité en fait que je recherchais dans le voyage.
C'est une autre mentalité. Et qu'est-ce que tu retires des échanges que tu as eus avec tous ces peuples? Je pense qu'il y a quand même des différences entre les réactions dans les différents pays que tu as traversés. C'est pas la même chose entre l'Australie, le Japon, le Maroc, et etc. C'est quand même pas la même mentalité.
Avant de répondre à cette question, parce qu'on a encore plein de temps, je vais un peu continuer quand même sur la démarche du voyage.
Ah ben vas-y, continue, on t'écoute.
À un moment donné, on se pose la question du qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que le voyage. Et on prend conscience que c'est quelque chose de quand même très égoïste. Parce que 90 ou 95, voire 99% des gens qu'on rencontre sur son chemin vont rester là. N'auront jamais les moyens de se payer un billet d'avion ou peut-être même un billet de bus pour aller au village d'à côté. Et on se remet vraiment en question et en cause sur finalement ce qu'on apporte. On a l'impression de beaucoup prendre, mais pas forcément de donner un retour derrière. Et donc suite à cette réflexion, j'ai créé une association qui s'appelle Regarde Ailleurs et qui avait pour but de continuer à voyager, mais en s'impliquant dans une dynamique locale, en se greffant sur des projets d'ONG et aller travailler à leur côté pour faire soit un reportage photo, soit radio ou récemment vidéo, hein, pour être dans une dynamique différente du voyage, être directement avec une population locale, peut-être moins mobile, mais peut-être être plus avec les gens, proche des gens, et pouvoir vivre des choses fortes avec eux sur une durée plus ou moins longue. Et donc comme ça, il y a eu un premier voyage, c'était au Népal, dans le massif des Annapurna, où bon, on le sait, la Chine envahit le Tibet en 59, hein, donc beaucoup de Tibétains ont dû partir, ouais. Avec le gouvernement Dalai Lama qui est en exil à Dharamsala en Inde.
C'est toujours pas réglé.
C'est toujours pas réglé, et il y a encore beaucoup de réfugiés tibétains, dont certains dans le massif des Annapurna, et qui ont dans un endroit, un village, où ils tentent de perpétuer une tradition, la tradition Bompa, qui est une des branches du bouddhisme. Hein, dans le bouddhisme, il y a différentes branches, et une est plus ou moins chamanique, bouddhisme tibétain, branche Bompa. Et donc une ONG qui s'appelle Club Tibet travaille là-bas sur un projet, et je suis parti avec en tête l'idée de faire un reportage photo pour communiquer sur cette école, sur ce village, et donner une dynamique différente au voyage.
Donc c'était carrément une plongée dans la philosophie bouddhiste, là.
Oui.
Hein, plongée dans la philosophie bouddhiste, qui n'est pas inintéressante d'ailleurs. Donc tu es parti là-bas et tu as de essayer de, comment dirais-je, d'analyser tout ça, de comprendre tout ça. Tu me disais tout à l'heure, tu voulais apporter quelque chose. Apporter quoi là-bas?
Pas apporter quelque chose, apporter quelque chose à travers le voyage, pas forcément aux gens. Et donc, faire un reportage était un moyen et de partager mon retour en France et aussi de communiquer sur le projet d'une ONG. Dans ce sens-là, apporter.
Donc tu as apporté une aide, quoi. Tu as contribué à faire avancer.
On va dire ça.
Chose.
Et puis sur place, la démarche, c'est d'être le plus proche possible des gens.
C'est la manière, bon, c'est la meilleure façon d'être le plus proche.
Oui, je crois que le voyage, il y a plein de façons différentes de voyager.
Ouais.
On peut partir en voyage, on peut partir en vacances, c'est déjà pas du tout la même chose.
Voilà, donc toi, c'était pas partir en vacances.
Non, non, pour moi, dans le voyage, il y a une notion d'effort. Dans les vacances, c'est plus une notion de repos. On va en vacances pour se reposer. On part pas en voyage pour se reposer. Enfin, je ne pars pas en voyage pour me reposer.
C'est pas le but.
Je me mets à l'épreuve, au contraire. Okay. C'est un effort. C'est une notion de remise en question.
Tu vas construire. De construire quelque chose.
Ou déconstruire. Se déconstruire soi.
C'est une autre façon de construire.
Pour se reconstruire derrière, tout à fait. Tout à fait.
Donc, c'est, j'allais dire, le style de vie que tu as choisi. Partir à la découverte, partir à la rencontre, participer pour construire, pour te construire, toi.
Et après, il y a toujours eu une recherche de quoi faire en voyage. Partir, oui, mais pas partir pour fuir. C'était pas le but de partir pour fuir. Donc j'ai toujours voulu avoir un projet dans le voyage. Et le voyage d'après, je crois que c'était celui d'après, hein, après le Vietnam, le Népal, il y a eu le Laos. Là, je suis reparti un an. Et là, c'était dans une démarche de volontariat. Donc le volontariat...
Ah oui, alors là, c'est le moment de nous faire la différence entre le volontariat...
Et le bénévolat.
Et le bénévolat.
Le volontariat, c'est un statut qui est reconnu par l'État et où on est rémunéré.
Le volontariat.
Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Et les organismes de solidarité internationale, il y en a quelques-uns en France, on peut citer l'IRCODE, qui est le plus connu en Alsace, mais aussi les Volontaires du Progrès, la DCC et d'autres organismes qui proposent des projets à l'étranger.
Quel genre de projet?
Dans le développement, dans la santé... Mais jamais dans l'urgence. C'est souvent des projets de développement, des missions de développement.
Dans l'enseignement, dans l'éducation.
Ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans la santé, ça peut être dans
l'ingénierie ou des choses comme ça.
Oui, dans l'ingénierie. C'est un apport de compétences en fait.
Ouais, d'accord.
C'est un apport de compétences à l'étranger, avec un statut intéressant parce que reconnu par l'État, parce que rémunéré ou plutôt indemnisé, avec une prise en charge au niveau des billets d'avion, au niveau de l'assurance maladie, au niveau du rapatriement, au niveau des retours en France.
De l'habitat aussi, non?
De l'habitat aussi. Mm-hmm. Donc, c'est finalement partir à l'étranger, mais avec un statut et être pris dans un projet.
Mais quand t'arrives, t'es pas largué, quoi.
Non. Voilà. Donc, en arrivant au Laos, je savais que je devais rejoindre le service culturel de l'ambassade pour aller développer un centre culturel dans le sud du pays. Mm-hmm. Et donc, pendant un an, j'avais signé pour un an, renouvelable sur quatre, pour une mission qui consistait à développer un centre culturel dans une des provinces du Laos. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je suis parti là-bas pour une année.
Ça devait être intéressant.
Ouais.
Ça devait être passionnant.
Ouais. C'est vrai.
Je souhaite ça. Alors. Donc ça, c'est le volontariat.
Oui.
Le volontariat. Donc d'accord. Maintenant, alors
le bénévolat. Le bénévolat, quand on part comme bénévole, c'est tout pour sa pomme.
D'accord. Tu te débrouilles.
Voilà, tu te débrouilles pour payer ton billet d'avion, pour payer ton logement, pour payer ta nourriture, pour payer l'organisme ou l'association qui va t'envoyer là-bas.
Mm-hmm.
Enfin, bénévolat, c'est t'y vas, tu donnes ton temps. Comme nous, on fait du bénévolat ici en France, dans une association, on n'est pas rémunéré derrière.
D'accord. Alors, tu te débrouilles pour, comme tu dis, payer ton voyage, te nourrir,
le bénévolat,
te loger.
On apporte, on donne de son temps.
C'est tout donné.
C'est tout donné et de donner son argent aussi quelque part. Hein. C'est pas
tout
donné
et de son argent et de soi.
Et de soi. Ouais.
D'accord. C'est une sacrée différence. Bon, alors après le Laos, il y en a eu d'autres?
Oh oui, après le Laos, oui.
Mais encore.
Au Laos, on rencontre beaucoup de monde. Quand on est fixe sur un endroit, on rencontre plein de voyageurs. On échange, on partage.
Ah ouais.
Et ça donne qu'une envie, c'est de voyager derrière.
Mais tu dois voir alors une foule de copains de tous les coins du monde, là.
On rencontre beaucoup de monde, oui. Après, on ne garde pas forcément contact avec tout le monde, mais
d'accord.
Oui, on rencontre beaucoup de monde.
Ouais.
Et donc, après le Laos, il y a eu le Vietnam. Ça, c'était pour un voyage sans but précis, hein. Envie d'aller voir ce qui s'y passait. Le Vietnam, la Thaïlande, encore une fois, le Cambodge, encore une fois, la Malaisie et la Birmanie. La Birmanie, où je suis parti rejoindre une autre ONG là-bas.
Mais si j'ai bien compris, ton continent de prédilection, c'est l'Asie.
C'est devenu l'Asie, donc ça a d'abord été l'Afrique.
D'abord, t'as commencé par là déjà.
J'ai commencé par l'Afrique, j'étais, waouh, l'Afrique c'est superbe, c'était ma première remise et claque culturelle, hein, ma première remise en question, premier choc culturel. Donc l'Afrique a été quelque chose de très fort, de très marquant pour moi. Et je me voyais continuer à voyager en Afrique. Il se trouve que j'ai monté un projet pour partir en Australie, et c'est une Japonaise qui m'a emmené pour la première fois en Asie. Et après, pareil, après avoir goûté aux saveurs de l'Asie, c'est l'Asie qui m'a attiré. Mais je crois que je serais retourné en Afrique, j'aurais peut-être continué à aller en Afrique, ou si j'avais eu la possibilité d'aller au Chili ou en Amérique du Sud, hein, peut-être que j'aurais continué à voyager par là-bas. Mais c'est parce que j'ai découvert ce continent que je connaissais pas, et j'ai trouvé une douceur de vivre qui m'a plu, qui m'a correspondu, qui m'a bien correspondu, donc je suis reparti en Asie plusieurs fois. Ouais.
Et qu'est-ce que tu as retenu de fort, de plus fort de chacun de ces continents que tu as traversé?
Je n'ai pas traversé beaucoup.
Ah bah quand même, il y a quand même eu l'Afrique. Quand tu dis chacun, il y en a au moins eu deux.
Je ne l'ai pas traversé, l'Afrique c'est grand. Oui, regardez sur une carte, c'est énorme.
Disons que tu as fait des incursions.
Voilà, on peut dire ça. J'y ai goûté des doses homéopathiques.
Des doses homéopathiques.
De ces différents, continents.
Donc
c'est difficile. Ben oui, ce que j'en retire, c'est qu'on a tous nos problèmes.
Ah oui.
Que c'est pas mieux ailleurs, c'est pas plus beau, c'est juste différent. Mais que l'homme, finalement, on est un petit peu le même partout, avec des différences culturelles marquantes, mais on a besoin, on a les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes peurs.
Exactement, on a les mêmes besoins, hein, les mêmes problèmes, on souffre souvent des mêmes maux, hein, généralement.
Il y a un ami qui disait, on n'est ni dépendant ni indépendant, mais on est interdépendant. On dépend tous les uns des autres, donc il faut en avoir conscience et puis pas hésiter à faire le pas d'aller voir l'autre.
Et ça, je pense que chez nous, la société de consommation a détruit beaucoup de ces choses-là, beaucoup de choses. Il faudrait qu'on arrive à retrouver justement ce sens de l'entraide, de la solidarité, de la main tendue vers l'autre, quoi.
Ça fait partie de notre évolution, ça fait partie du développement, c'est comme ça, effectivement. Je pense qu'on est de plus en plus individualiste et plus axé sur le bien-être matériel avant le bien-être humain. Peut-être que les priorités ont changé, ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'à 20, 30 ou 50 ans. Mais ça fait partie de ce qu'on a à vivre aujourd'hui pour pouvoir continuer à développer notre potentiel humain.
Ça veut dire qu'on apprenne à faire du tri.
Oui.
Du ménage, dans nos têtes.
Oui, libre à chacun de faire le ménage comme il veut. Je suis pas pessimiste en fait.
On peut prendre un balai ou un aspirateur, on peut aussi prendre un Karcher, ça c'est
au choix de chacun. Fort, hein.
Ben, voilà, c'est au choix. Mais il y a toutes sortes de moyens, là aussi. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. Tu m'avais dit l'autre jour ce que tu avais retenu de plus fort, c'est l'esprit de solidarité, la solidarité. Qu'est-ce que tu voulais entendre par là? Justement, m'a parlé de solidarité.
Ouais, ça dépend du contexte. Je pense que là où j'ai vu le plus grand entraide, c'est là où les gens sont les plus démunis matériellement. Pas les plus pauvres, hein. Pour moi, c'est pas, enfin, pauvreté matérielle, mais pas pauvreté du cœur ou pauvreté de l'âme. Et c'est souvent dans le dénuement matériel que les gens sont beaucoup plus dans l'entraide et dans la solidarité, où il y a vraiment une notion de famille, de lien qui est très importante, et on ne laissera pas quelqu'un tout seul sur le carreau, et on va s'entraider, on va donner un coup de main pour construire la maison, faire le riz dans la rizière, offrir une poule. Il y a une notion de partage, c'est normal, quoi. C'est des valeurs plus simples. On est plus dans les besoins primaires qui sont boire, manger, dormir, et il faut que tout le monde puisse arriver à subvenir à ses besoins, et donc on vit les choses plus simplement et peut-être d'une façon plus belle, je sais pas.
Alors que là,
pourquoi des peuples sont plus accueillants que d'autres, et
c'est marrant, hein.
Et des pays où je me suis senti très peu accueilli, en Russie par exemple, je me suis pas du tout senti accueilli, et d'autres pays je me suis senti beaucoup mieux accueilli, je sais pas pourquoi.
Parce que t'as aussi été en Russie.
Oui.
Ah oui, parce qu'on n'a encore pas fait le tour.
Non.
Où est-ce que t'as été encore?
je sais plus où on s'était arrêté à la Birmanie, je crois.
T'es arrêté à la Birmanie.
Ouais, et puis après la Birmanie.
Nous, on s'est arrêté à la Birmanie.
À la Birmanie, pour une ONG, pour laquelle je suis reparti après au Bangladesh, pour un autre reportage sur les enfants des rues cette fois.
T'as dû voir des choses terribles en passant comme ça.
Tu me demandais ce que j'ai retenu des voyages. Je pense que le Bangladesh a été un des plus marquants, parce que un des plus éprouvants. Où je crois que c'est le ou un des pays les plus pauvres et les plus peuplés du monde. La densité y est impressionnante, et là-bas on voit vraiment de la misère, hein, la pauvreté mélangée à de la misère.
On doit quand même se sentir un peu mal à l'aise quand on est là, puis on peut pas faire grand chose, c'est insupportable.
J'ai
ça.
Plein d'anecdotes à raconter, oui, mais c'est vrai que surtout quand on est là pour faire des photos, alors on prend son appareil cas, photo qui coûte 1 000 euros et on peut prendre quelqu'un qui tend la main dans la rue qui pourra jamais, en accumulant 10 vies, pouvoir se payer un appareil photo. Et là on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai le droit de prendre cette personne en photo? Donc c'est important de savoir pourquoi on fait ce genre d'image quand on les fait.
C'est pour déjà faire connaître, faire savoir, interpeller.
Oui, et puis c'est pour une ONG que j'ai fait ça. Et ça a permis derrière de
travailler avec,
ces images pour pouvoir trouver, monter des projets.
J'ai une de mes filles, ma plus jeune fille, elle a fait un stage une fois en Inde. Elle a voulu traumatiser parce qu'elle a vu dans les rues.
L'Inde, je crois que l'Inde, j'y suis allé par la suite aussi. Enfin, c'est grand, hein, c'est vaste comme pays, donc j'ai juste vu une toute petite partie, hein, quelques villes, Varanasi, et c'est quand même moins extrême que le Bangladesh.
Moins extrême.
Oui.
Le Bangladesh est encore pire.
Oui.
Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça doit être, mon Dieu. Alors je repose ma question. Je me dis, mais durant, tu m'as expliqué de ton appareil photo, qu'est-ce que je fais là, etc. Mais moi, je sais que j'aurais du mal parce que reste-t-il là. Même si tu roules pas sur l'or, tu fais office de nabab par rapport à eux.
Ouais.
Hein? Alors, comment fait-on, ne serait-ce que pour aller s'acheter une petite galette au coin de la rue et puis la manger alors que les autres sont en train de crever de faim à côté?
Alors,
t'achètes un paquet de galettes et tu partages.
On sort de l'indifférence et on donne quelque chose d'autre que de l'argent, que du matériel aux gens. Un sourire, une parole.
Ça ne les nourrit pas.
Non, mais je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être indifférent face à ça.
Ah, ben ça, c'est sûr.
Donc, il y a beaucoup de gens qui se protégeront comme ça. Qui vont ignorer les mendiants, qui vont les ignorer pour se protéger quelque
parce
part.
Qu'ils sont mal à l'aise,
pour pas être confronté à cette réalité qu'on n'a pas envie de voir. C'est pas beau.
Mais c'est peut-être pas qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on sait pas comment faire. On se protège.
Ouais. Donc
je suppose.
Donc moi, je crois que la démarche c'était d'être proche des gens et de prendre le temps de les toucher, de les regarder, d'avoir un échange, même si c'est qu'avec un échange des regards, mais pas être dans l'indifférent. Les aider, on peut pas. Ils sont des milliers. On peut pas donner
mais
l'argent.
Ça ne nous est pas possible.
On peut pas. Ou alors on peut aider sur un projet, participer à un projet et se dire bon, voilà, toi je t'aiderai pas, mais j'essaie quand même à travers une action ou une autre essayer d'avoir une influence ou un impact, même si elle est minime. Mais bon voilà, après il y a aussi le battement d'ailes de papillon. Ce qu'on fait à un endroit peut avoir des répercussions ailleurs. Donc on peut pas aider tout le monde, mais ce qu'on fait c'est déjà ça de prix.
Je pense que c'est la meilleure façon d'aider parce que les collectes à donner de l'argent, ça va pas forcément où ça doit aller. C'est pas alors que quand on est là à travailler à un projet, à quelque chose, faire avancer quelque chose qui doit contribuer à un mieux vivre d'au moins de quelques-uns,
c'est peut-être plus difficile comme démarche, mais oui, c'est important.
Oui, c'est plus difficile parce qu'on est là puis sur le bas. Faut y aller. C'est sûr.
Oui.
Enfin, quand on peut faire des expériences du genre de celles que tu as faites, je crois que c'est précieux pour tout le monde. C'est chouette.
Ouais, c'est chouette.
C'est chouette.
Enfin, moi, j'encourage tout le monde à sauter par-dessus les barrières de la peur et y aller, parce que souvent, c'est ça qui nous retient. Voyager, c'est mettre un pas devant l'autre. C'est facile, c'est pas bien compliqué, mais souvent, on se met nous-mêmes des barrières où on va se trouver des excuses à ne pas pouvoir le faire. On va parler de problèmes financiers, familiaux, et je dis pas que ces problèmes n'ont pas raison d'être, mais souvent, on va se limiter par ces peurs.
C'est vrai, mais il faut quand même avoir un certain tempérament, j'allais dire un peu bohème tout de même. Tout le monde ne supporterait pas ce genre, ce rythme de vie.
Sûrement, bah alors si
bohème, je le dis, c'est pas une critique.
Non, bien sûr,
hein.
Bien sûr. Non, mais complètement. Bah alors, il faut pas y aller si on le sent pas ou si on n'a pas ça en soi. C'est pas quelque chose de fort intérieurement et qu'on n'a pas besoin de voir ce qui se passe ailleurs, bah qu'on le fasse pas. Il y a aucun problème.
On peut avoir envie, on peut avoir besoin, mais sans avoir, j'allais dire, l'audace.
Donc là, c'est plus le côté bohème.
C'est compliqué,
chose.
Donc, là, ça, là. Du coup, c'est encore autre chose, oui.
Ouais, bah, c'est possible.
Parce que c'est pas une démarche anodine, hein.
Je sais pas.
Ça, c'est naturel, alors bon, c'est différent. Mais...
Ouais, c'est quelque chose qui. C'est pas anodine en même temps.
Non, c'est quand même pas une démarche anodine. C'est un engagement.
En même temps, quand on voyage, on rencontre tellement de gens qui font la même chose qu'on trouve ça presque normal. On banalise vachement. Hein. C'est pas.
Oui, oui.
C'est fréquent. Aujourd'hui, tout le monde voyage. C'est devenu facile de prendre un avion, prendre un bateau, prendre un train, prendre une voiture.
C'est vrai, mais pas forcément pour faire ce que tu fais.
Peut-être.
Hein? Alors, on va pour passer des vacances, je sais pas où d'ailleurs, faire des milliers de kilomètres pour aller juste se faire trempette dans la flotte, dans la mer de je sais pas quoi, et puis rien voir d'autre. Bon, 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 l'intérêt, on peut faire ça plus près. Enfin bon, ça c'est mon avis, c'est tout. Chacun le sien.
Chacun le sien.
Hein? Bien, alors, donc, quel est le dernier d'où, j'allais dire, d'où nous es-tu revenu la dernière fois?
Mongolie.
De Mongolie.
Non, Inde.
D'Inde, justement, de l'Inde.
De l'Inde.
Et quel est le prochain projet?
Je sais pas.
Attends qu'on peut fixer.
Non,
bah oui, mais
là,
ça va cogiter.
Bah ça cogite, mais on arrive à un moment donné où je me remets en question. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, profité, mais je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça tout le temps non plus.
Ah d'accord.
Je pars pas pour fuir l'Alsace. J'aime beaucoup Colmar, cette région. J'y suis attaché. Si je reviens ici, c'est bien parce que je les attache ici. Donc peut-être que je vais rester un peu plus ici maintenant et peut-être un peu moins sur les routes.
Ah, ah d'accord, tu vas peut-être te fixer un peu.
Peut-être.
Ne serait-ce qu'un certain temps.
Peut-être.
On sait jamais.
On ne sait pas de quoi demain est fait.
D'accord. Mais écoute, moi je te remercie infiniment Alex. J'espère que tu auras fait voyager nos auditeurs aussi, un petit peu.
Inch'Allah.
Hein? Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés.
Bye.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.